Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, le mensonge est-il une pratique à l'échelle industrielle ? Les médecins auront-ils encore une quelconque utilité sur les prochains Tours de France lors des contrôles antidopage ? Faudra-t-il les remplacer par des mécaniciens ? Questions qui n'ont rien de farfelu dans la mesure où la technologie permet aujourd'hui de dissimuler des moteurs dans les vélos de course. Certes, aucun coureur n'a été pris à ce jour en flagrant délit de tricherie, mais l'Union cycliste internationale admet désormais qu'une telle fraude est possible grâce à la miniaturisation des outils. Quant à leur numérisation, elle ouvre des perspectives qui donnent le vertige, comme vient de le démontrer l'affaire Volkswagen. Des millions de véhicules trafiqués pour mentir lors des tests anti-pollution. Quelques lignes de code auront suffi à modifier les données fournies par le logiciel moteur, permettant aux différents modèles d'afficher des niveaux d'émissions d'oxyde d'azote en deçà de la réalité. Comme l'écrit Courrier International en une de sa dernière livraison, le Dieselgate s'ajoute à une liste de scandales liés aux grandes entreprises. On pense à celui de la viande de cheval dans les lasagnes au bœuf, à l'affaire du Mediator, l'industrie du tabac, qui minimise depuis des décennies la nocivité de ses produits. Alors faut-il y voir une dérive structurelle, voire systémique ? Le mensonge, une pratique à l'échelle industrielle, c'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Stéphane Foucard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste scientifique au Monde. Vous avez publié La fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. Ouvrage qu'on peut trouver désormais dans la collection Folio de chez Gallimard et qui a été publié en 2014. Pour discuter avec vous, François Dupuis, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue des organisations, vous êtes consultant pour de grandes entreprises en Europe. Au seuil, cette année, vous avez sorti le tome 2 de Lost in Management, intitulé « La faillite de la pensée managériale ». Et puis, troisième invité, Luc Loken, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en organisation du travail et en gestion des compétences. Vous avez un passé de DRH, de directeur des ressources humaines, notamment dans les laboratoires pharmaceutiques. Je crois que vous avez été DRH, par exemple, chez Sanofi, mais aussi dans la presse. Et vous avez publié, alors c'est un peu plus ancien, mais on a réussi à en retrouver un exemplaire publié chez Priva, « Le mensonge dans l'entreprise ». Alors, pour commencer cette discussion, je voudrais bien entendu démarrer avec cette affaire Volkswagen. Est-ce que vous avez été surpris les uns et les autres par l'ampleur prise par ce scandale, François Dupuis ?
Alors, surpris par l'ampleur prise par le scandale, non. Par contre, surpris par ce qui s'est passé, oui. Parce que, dans le fond, comme on peut tous le voir, on arrive dans un monde dans lequel tout se sait. Donc finalement, si on croit ce qu'en a dit la presse, les dirigeants étaient au courant depuis un certain temps, ils n'ont pas a priori arrêté cette mécanique et ils n'ont pas pris de précautions de communication ou d'anticipation de ce qui est sorti dans les médias et ce qui a fait le scandale. Donc ce qui est le plus surprenant, c'est chaque fois que des choses comme ça se produisent, que personne ne se rend compte qu'effectivement aujourd'hui tout se sait, tout apparaît au grand jour à un moment donné.
Stéphane Foucard, vous partagez cette vision finalement assez optimiste qui est celle de François Dupuis, que de toute manière on ne peut rien dissimuler parce que ça va finir par se savoir.
Oui, moi ce qui me frappe plus que l'ampleur finalement des répercussions sanitaires de cette affaire, c'est le fait qu'on a un exemple finalement assez rare d'une tromperie organisée qui a nécessairement été le fruit d'un plan échafaudé le long d'une hiérarchie qui a nécessité la mise en œuvre d'outils techniques complexes. Et c'est surtout ça qui est frappant, plus que les répercussions en elles-mêmes qui sont bien inférieures à celles, par exemple, je parle des répercussions sanitaires, bien sûr, celles du tabac, par exemple, où on a affaire à d'autres modes de mensonges, de tromperies, de manipulation de la réalité. Donc moi, c'est plutôt ça qui me frappe. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'affaire Volkswagen a une singularité, en tout cas, de mon point de vue, inédite. Quoi.
D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui choque le plus. Est-ce que ce sont les répercussions sanitaires attendues ou craintes, ou si c'est le fait qu'une entreprise ait menti ? Est-ce que c'est plutôt la dimension morale, finalement, qui n'est pas la plus choquante et qui explique cet emballement médiatique ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Luc Loken.
Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses. Moi, je me garderais bien, en tout cas, d'accuser personne à ce stade-là, parce que moi, je pense effectivement, comme François Dupuis, que la vérité finit par apparaître. Mais bon, à ce stade, la vérité, on la connaît pas.
Quand vous dites on connaît pas la vérité, c'est-à-dire on ne sait pas si c'était un plan totalement prémédité.
Voilà. Et puis qui a agi, etc. On a des hypothèses. En revanche, effectivement, ça fait penser, quand on regarde ça de près, qu'il y a des structures de mensonges. C'est-à-dire que on est sur un phénomène organisationnel, sans doute plus que une volonté délibérée de tromper le client. Je crois qu'il faut préciser un petit peu ce que peuvent être les structures de mensonges.
Enfin, allez-y, dites-nous, ouais. Parce que ça fait partie justement de votre ouvrage.
Voilà, donc les structures de mensonges, sont effectivement des processus organisationnels qui conduisent à ne plus percevoir, à ne plus connaître la réalité. Donc sur cette base-là, des décisions peuvent être prises en méconnaissance totale d'un certain nombre de réalités. Par exemple, enfin, on dit de réalité de terrain, comme s'il y avait des réalités autres que celles de terrain, d'ailleurs.
Mais attendez, ça veut dire, Luc Loken, que vous nous dites que alors c'est vrai que chez Volkswagen, on ne sait pas pour l'instant ce qui s'est réellement passé, donc on ne peut en être qu'au stade des hypothèses, mais en tout cas, l'hypothèse qui consisterait à dire personne n'a vraiment décidé à un moment donné de placer ou de modifier les logiciels pour qu'ils mentent au moment des tests anti-pollution, ça c'est possible. Et l'expérience que vous avez de la structure des entreprises vous permet de dire que c'est envisageable.
Oui. Je vous prendrai un exemple que j'ai vécu lors d'une mission concernant des fiches de fonction. Les managers avaient, à la demande de la direction, rédigé des fiches de fonction. 5 ans plus tard, ces fiches de fonction étaient devenues obsolètes parce que les besoins avaient évolué. Et donc... Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il n'y avait pas de processus d'actualisation de ces fiches de fonction. Donc, les fiches de fonction étaient devenues fausses. Vous me suivez, hein. Donc, étant devenues fausses, elles ont provoqué des dysfonctionnements très importants, mais en méconnaissance totale des différents acteurs. Enfin, la direction ne savait pas que ces fiches de fonction étaient fausses. Les salariés pouvaient penser que la direction savait que ces fiches de fonction avait créé ces fiches de fonction
Le faisait à dessein, c'est-à-dire avait des fiches de fonction qui étaient fausses, mais que la direction le savait
et qu'elle les maintenait dans leur état. Donc on était devant véritablement un phénomène organisationnel. Et
oui. C'est un exemple qui peut s'appliquer à ce que l'on sait pour l'instant de cette affaire Volkswagen, François Dupuis.
D'abord, je voudrais dire avec un sourire, fausse ou pas fausse, tout le monde sait qu'on n'a jamais pu travailler selon des fiches de fonction. Voilà. Donc, ma foi, là, que la direction le sache pas, ça prouve une énorme naïveté sur ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, par contre, dans ce qui a été dit, il y a deux points qu'il faut dire rapidement sur le fonctionnement des entreprises. D'abord, il y a des choses qui se font dans les entreprises comme dans n'importe quelle organisation que personne n'a jamais décidé. C'est-à-dire qu'ils sont la conjonction de petites décisions à droite, à gauche, etc. et qui finissent par apparaître comme étant une décision construite. Ce qui poserait d'ailleurs la question par rapport à ce qu'a dit Stéphane Foucart, et je pense qu'il aurait quelque chose d'intéressant à nous dire là-dessus, c'est à quel moment c'est devenu un mensonge, ce qui a sans doute peut-être pas été fait dans un plan délibéré à l'avance, etc. Puis il y a une deuxième chose qu'il faut quand même dire, qui pourrait être une hypothèse dans le cas qui nous intéresse, c'est que aujourd'hui, les grandes entreprises, et Dieu sait si Volkswagen en est une, elle et ses filiales, puisque ça ne concerne pas que Volkswagen, les grandes entreprises perdent le contrôle de ce qui se fait chez elles. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe absolument extraordinaire où, compte tenu de la pression qui pèse sur ces entreprises de par la concurrence, les marchés, les financiers, etc., on veut absolument tout contrôler et on a mis au point des techniques qui, par parenthèse, nous ramènent à peu près au taylorisme et 100 ans en arrière, mais la multiplication utilisation de ces techniques trop compliquées, contradictoires et trop nombreuses fait que finalement, on ne contrôle plus rien.
Donc tout le monde est coupable et personne n'est responsable d'une certaine manière.
D'un certain point de vue, si. Parce que vous avez vu quand même que, heureusement, il y a une régulation qui fait que le patron a démissionné. Mais le patron a démissionné. Mais est-ce que pour le moment, quelqu'un a été capable, ça viendra peut-être, de reconstituer exactement qui a pris la décision, néanmoins sachant que ça ne mesurait pas bien ce qui devait être mesuré, de l'installer sur toutes ces voitures.
Stéphane Foucard, je vous voyais hocher la tête à certains moments.
Oui, moi je pense que ce serait absolument fascinant d'avoir accès à la correspondance interne de ces cadres qui ont, d'une manière ou d'une autre, permis l'installation de ce logiciel sur ces véhicules. Il est, à mon sens, très probable ou plausible qu'à aucun moment, le terme de mensonge, de mentir, n'ait été jamais prononcé nulle part par personne. Mais qu'on ait présenté l'installation de ce logiciel comme une manière d'améliorer les performances des véhicules en situation de test, tout en maintenant les performances en termes de consommation, etc. Donc, une présentation plutôt positive de quelque chose qui n'est jamais transmis à la hiérarchie comme étant une manipulation, une tromperie active, etc. Il y a un exemple dont on parlait tout à l'heure hors antenne, moi, qui me fait penser à cette situation, en tout cas à la manière dont elle a pu se passer. C'est au sein de Philip Morris, hein, des grands industriels du tabac dans les années 50-60, où on commençait à manipuler la chimie de la feuille de tabac pour en rendre la fumée plus addictive, hein, en ajoutant par exemple de l'ammoniac pour que la nicotine soit plus réactive avec l'organisme, ce genre de choses. À aucun moment, les chimistes qui pratiquent ce genre de choses n'expliquent à leur cadre, à leur hiérarchie, qu'ils vont comme ça augmenter l'addiction. Ils expliquent qu'ils vont augmenter l'attractivité du produit.
Ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que vous expliquez dans votre livre sur votre enquête sur l'industrie du tabac, alors vous faites référence d'ailleurs au vieux film où on voit par exemple Charlie Chaplin qui n'inhale pas la fumée. Donc à ce moment-là, il n'inhale pas la fumée parce que avaler la fumée, c'est quelque chose qui va énormément irriter la gorge. Donc, on cherche à vendre davantage de cigarettes. Pour qu'on vende davantage de cigarettes, il faut quand même que les gens aient envie d'en acheter plus. Pour qu'ils aient envie d'en acheter plus, il faut qu'ils ressentent un besoin. Pour qu'ils ressentent ce besoin, il faut quand même que la fumée finisse par rentrer dans les bronches pour créer cette addiction, même si ça n'est pas dit. Donc, on va modifier la composition de la cigarette. Donc, c'est quoi? C'est l'objectif commercial qui conduit à fabriquer du mensonge?
Voilà, c'est l'objectif commercial de vendre plus de cigarettes à plus de gens qui conduit à ce qui est en définitive perçu par la société comme un énorme mensonge, mais qui est perçu comme en interne, disons, dans les entreprises, comme simplement faire son job, quoi, vendre des cigarettes.
Alors, assumer un mensonge dans un discours au sein d'une entreprise, c'est-à-dire le vendre à ses salariés en disant « voilà, on va mentir à nos clients ». Mais c'est pour le bien de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister, Luc Loken?
Oui, ça peut exister, bien sûr. Mais moi, je voudrais.
Vous en avez fait l'expérience, vous? Comme DRH, ou comme consultant?
Je voudrais surtout.
Non, mais répondez d'abord à ma question. Ouais. Après, vous me direz ce que vous voulez surtout dire.
Votre question.
Est-ce que vous avez fait l'expérience d'entreprise où on assumait le mensonge? C'est-à-dire, puisque finalement, on se dit, aujourd'hui, ce mensonge, il n'apparaît pas comme tel, mais c'est quelque chose qui peut aussi se créer sans que personne, finalement, ne s'en aperçoive. Est-ce qu'il y a des cas où on assume ça en disant, bah voilà, pour la survie de l'entreprise, oui, on est obligé de tromper nos clients?
Oui, je l'ai vu, effectivement, je pense à un cas précis, ça m'est difficile de le décrire parce qu'on risque de reconnaître l'entreprise.
Allez, essayez, on va faire en sorte de ne pas reconnaître.
Mais où effectivement, des prestations étaient présentées et dans la réalité n'existaient pas. Donc on vendait et tout le monde le savait. Là. Et évidemment, les salariés sont mal à l'aise lorsqu'on leur demande de vendre, notamment les commerciaux, de vendre quelque chose qu'ils savent personnellement qu'il n'existe pas. Mais il y a plus grave, et ça je voudrais le dénoncer parce que c'est assez rare, c'est que le management par objectif, on a utilisé le mot tout de suite, est en lui-même une structure de mensonge. Parce que il amène à nier ce qu'est un salarié qui apporte. Un salarié, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui cherche à apporter ses capacités, à apporter ses savoir-faire, à apporter ce qu'on appelle ses compétences. Ce qui motive quelqu'un quel que soit son poste, quel que soit son niveau d'instruction, quel que soit ses objectifs personnels, quelqu'un qui vient au travail, il veut mettre en œuvre ses capacités. Lorsqu'on lui dit, et le management par objectif s'oppose à ça, lorsqu'on lui dit, parce que pour faire très simple, le management par objectif, c'est quoi ? C'est « je te fixe un objectif et c'est à toi de te mobiliser pour atteindre cet objectif, peu m'importe, et je ne vais pas regarder quelles sont les capacités que tu as, ou que tu mobilises pas, etc., comment tu t'organises pour atteindre cet objectif. » Et ça, c'est extrêmement frustrant, et je pense que c'est à l'origine des certains risques psychosociaux.
Et ça existe dans l'économie capitaliste, comme ça a pu exister aussi au temps des grands plans quinquennaux du temps de l'Union soviétique, où il fallait atteindre des objectifs. On savait bien qu'ils n'étaient pas complètement atteints, mais on donnait l'illusion en mentant, là aussi, justement, sur ce qui était effectivement réalisé. François Dupuis.
Oui, encore une fois, on recherche effectivement, et je le comprends très bien, on recherche des coupables, mais les mécanismes dans les entreprises sont
des coupables ou en tout cas des responsables. Il faut bien que quelqu'un assume à un moment donné des décisions. C'est à ça que ça sert, non, les dirigeants d'entreprise.
Ok, très bien. Mais là, le PDG, il s'est fait virer, enfin, il a démissionné. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un petit point. Les mécaniques là que vous décrivez, est-ce que l'on dit aux gens vraiment, voilà, il faut tromper, ça porte un nom dans les entreprises, vous voyez, ça s'appelle l'optimisation. Prenons un exemple précis. Vous allez acheter une voiture et on va vous dire votre voiture, à telle vitesse, elle consomme, enfin, elle émet tant de CO2. Mais pour faire l'expérimentation qui va, où elle consomme tant d'essence, mais pour faire l'expérimentation, on va optimiser la voiture. C'est-à-dire qu'on va faire ce que l'on peut pour qu'elle soit à son poids minimum. On va, par exemple, ne pas mettre en route du tout et même arrêter tous les systèmes de climatisation et de chauffage qui sont consommateurs d'essence, etc. Et on va bien rouler à plat parce que s'il y a la moindre côte, vous consommez plus. Donc, on aura optimisé le test. C'est un mensonge, c'est pas un mensonge. Prenez-le comme vous voulez. Mais là où je voudrais
dire... On pourrait presque dire, alors une voiture à l'arrêt, par exemple, elle ne pollue pas. Voilà. Ouais, donc c'est la preuve que nos voitures sont propres.
Vous pourriez dire ça.
On va jusqu'à l'absurde.
Et alors on va dire aux gens, ben écoutez, il faut que vous optimisiez le test. Et vous avez dit ça, vous, moi, optimiser le test. Je ne vous ai pas dit tricher. Pourquoi vous avez triché? Voilà, mais je vous ai dit d'optimiser le test. Alors, je crois aussi qu'il faut souligner un deuxième phénomène qui est quand même courant dans les entreprises. Et là, par contre, moi, je dénonce personne, mais tout le monde va se reconnaître dans nos auditeurs qui travaillent dans des entreprises. C'est le système des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, vous allez dire dans l'entreprise, vous allez faire une charte éthique, en faisant d'ailleurs peut-être un contresens sur le mot éthique, ça, peu importe, dans lequel vous définissez véritablement, par exemple, je vais vous prendre un exemple, je ne vais pas hésiter à citer l'entreprise, vous allez prendre Goldman Sachs, qui a très mauvaise réputation.
Oui, donc finalement, voilà, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Hein.
Voilà. Mais Goldman Sachs a ce qu'ils appellent des management principles, des principes de management. Alors, vous les lisez, c'est absolument formidable. Hein. D'ailleurs, le premier des principes de management, c'est tout ce que nous faisons est fait au service du client. Voilà, c'est bon. Voilà. Et alors, vous faites par exemple des principes de management, des chartes éthiques que les gens sont censés respecter. Et d'un autre côté, vous faites sur eux des pressions qui sont terribles pour obtenir des résultats sur la base d'objectifs, comme vous venez de le dire, qui ne peuvent pas être obtenus si vous respectez la charte telle qu'elle a été émise. Or, vous savez, les gens sont des gens intelligents dans les organisations. Si ils savent qu'ils sont jugés sur des objectifs, mais pas spécialement sur le respect de la charte éthique, eh ben, ils vont oublier un instant la charte éthique et ils vont atteindre leurs objectifs. Donc, ça permet aux dirigeants d'être couverts en disant, mais quand même, vous avez notre charte éthique, vous n'aviez pas à faire ça, sauf que vous l'avez mis concrètement dans une situation à laquelle il a bien fallu qu'il le fasse pour arriver au résultat qu'on espérait de lui. Ça fonctionne comme ça.
In this nationwide survey of general practitioners, surgeons, throat specialists, diagnosticians, and so on, the brand named most was Camel. Yes, according to this survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. Make the one sensible cigarette test.
Make your own 30-day camel mildness test in your...
Bon, Alex, on va pas vous la laisser trop longtemps parce qu'on l'a pas traduite in extenso, mais d'une vieille publicité expliquant en quoi il faut fumer des cigarettes avec un chameau, vous savez, en logo sur le paquet, parce que notamment c'est bon pour la gorge et parce que les médecins, les docteurs, quand ils choisissent une cigarette, ils choisissent de fumer celle-ci. On est vraiment là avec cette façon de communiquer dans quelque chose d'extrêmement grossier, c'est-à-dire que ceux qui font cette campagne de communication savent déjà ou a de gros doutes, on va dire, sur la nocivité de la cigarette, Stéphane Foucard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, de plus en plus, la façon de peut-être de fabriquer du mensonge autour des produits qu'on vend se complexifie, devient un peu plus subtile. C'est-à-dire, on passe d'une publicité très très basique à une manipulation ou en tout cas une instrumentalisation, notamment l'instrumentalisation du doute qui est constitutif de ce qu'est la science, c'est-à-dire la science n'avance que par le doute. Et les cigarettiers, par exemple, pour rester sur cet exemple, eux vont se servir de ce doute-là pour justement continuer à dire bah, « Oui, peut-être que c'est mauvais, mais peut-être que ça ne l'est pas tant que ça ».
Absolument. Alors, juste pour revenir sur la publicité là qu'on vient d'entendre, après tout, puisqu'on parle de mensonges, aucun d'entre nous ici n'a la preuve que il est faux de dire que les docteurs, les médecins fument plus de cette marque-là que d'une autre. Après tout, c'est peut-être vrai. Hein. Donc, il y a aussi ce genre de subtilité, qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est de l'instrumentalisation de la science et des méthodes un petit peu plus subtiles de promouvoir du mensonge, là où ça devient très intéressant, c'est que ces méthodes-là permettent de produire du mensonge sans que la société ne le perçoive comme tel et ne le perçoive jamais comme tel. C'est-à-dire que ce que vous venez dire, c'est-à-dire sur l'instrumentalisation du doute scientifique qui a été effectivement inventée par les cigarettiers dans les années 50, elle permet de poursuivre presque indéfiniment la discussion scientifique sur la notion de preuve, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un produit est mauvais ou pas, plus mauvais qu'un autre, etc. Et tout ça a été effectivement inventé dans les années 50 par les cigarettiers, en fait par un des communicants, un des grands communicants de ces cigarettiers, qui s'appelait John Hill, qui était un grand patron des relations publiques américaines, et qui a théorisé ça dans un petit mémo qui fait 4 pages, qui est public, hein, qu'on peut consulter, qui est sur Internet, qui circule, et dans lequel il dit en gros, nous ne pouvons pas aller contre la science, on ne peut pas dire que les scientifiques mentent, c'est pas possible, parce que les gens y croient en la science, ils ont confiance dans les scientifiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et on va devenir la science nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va instrumentaliser, enfin il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas instrumentaliser la science bien sûr, il dit on va chercher des causalités alternatives, on va financer de la recherche, on va financer la recherche qui va produire des résultats sur lesquels on va pouvoir communiquer, soit pour dire que la cigarette c'est pas si mauvais que ça, parce qu'il y a plein d'autres causes possibles d'avoir un cancer du poumon, hein, la pollution atmosphérique, la génétique, hein, les prédispositions familiales, ce genre de choses, et puis on va comme ça diluer la perception du risque. Oui, la cigarette, c'est pas très bon pour la santé peut-être, mais il y a tellement d'autres choses qui sont aussi mauvaises que, après tout, une petite cigarette de temps en temps, ça peut pas faire de mal.
Et puis après tout, on va tous mourir, donc pourquoi pas mourir de la cigarette? Il y a des mémos moins subtils, je voudrais quand même citer un autre de ces mémos, alors qui est un peu plus récent, il date de 1978, et il est signé de la British American Tobacco, et on peut lire ceci dans ce mémo. Alors moi, je dois dire, quand j'ai lu ce passage, c'est pas possible, quoi, ça n'a pas pu être écrit, mais voilà, je vais quand même vous lire. Avec l'augmentation générale de l'espérance de vie, ça c'est ce que dit donc la British American Tobacco, nous avons vraiment besoin de quelque chose dont les gens meurent. En substitution des effets de la guerre, de la famine et de la pauvreté, le cancer, la maladie des pays riches et développés pourrait avoir un rôle prédestiné à jouer. À l'évidence, l'argument n'est pas de ceux que l'industrie du tabac peut utiliser publiquement, là il y a une forme de lucidité d'un seul coup, mais son poids comme facteur psychologique pour perpétuer le goût de la population pour la cigarette, comme une habitude bien agréable, enfin agréable bien que risquée, ne doit pas être sous-estimée.
En fait, ce mémo-là, il est effrayant, pas seulement pour le message qu'il véhicule, mais il est effrayant parce qu'il a réussi à s'implanter dans la population. C'est-à-dire qu'un argument qui est un argument de pure propagande forgé dans les départements des relations publiques des cigarettiers, hein, en l'occurrence, je crois que c'est British American Tobacco ou Brown & Williamson, peu importe, a fini par devenir un argument de la conversation publique autour du tabac. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est cette capacité finalement à faire passer ce genre de message dans le débat public.
Luc Loken, j'ai vu dans votre livre que vous disiez quand vous avez un client, enfin une entreprise qui veut travailler avec vous, vous dites « je n'ai qu'une exigence à l'égard des entreprises avec lesquelles je travaille, renoncer au mensonge ». Alors pour moi, renoncer au mensonge, ça veut dire dire la vérité. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment la vérité quand on est dans un cas comme celui-là?
Je crois que c'est vraiment important de le souligner parce que... je me mets un peu à la place de nos auditeurs, on va les désespérer quand même. Et il y a des solutions. C'est-à-dire que j'ai vu dans mes missions que dès qu'on redonne la parole à des gens qui sont proches du terrain, qui vivent un certain nombre de réalités et que les directions, et c'est ça que j'appelle renoncer aux mensonges, acceptent de redonner à la parole aux opérateurs, à ceux qui sont proches du client, proches de la machine, proches du produit, proches des dysfonctionnements, etc. Eh bien, les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est à s'exprimer. Et en s'exprimant, il y a des processus de régulation très rapides qui s'effectuent et qui amènent à des améliorations considérables. Mais il faut accepter effectivement renoncer aux mensonges, c'est-à-dire donner la parole aux personnes qui sont au plus près des réalités. C'est ça.
Ça, c'est ce que
pour
vous faites.
Retrouver le sens des réalités.
Voilà.
Et c'est possible rapidement.
Ça, c'est en termes d'organisation interne à l'entreprise, mais en termes de communication. Imaginons, par exemple, bonne nouvelle, Luc Lequen, pour vos finances personnelles, Volkswagen vous propose de mener une mission de conseil, et notamment de conseil en termes de communication de crise. Qu'est-ce que les nouveaux dirigeants de Volkswagen, par exemple, auraient intérêt à dire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils disent attention, donc les véhicules là qu'on vous a vendus, ils polluent énormément, et puis peut-être qu'ils vont abréger votre vie. Ou bien est-ce que la communication, elle va pas être attention, ok, on pollue, mais c'est pas si grave que ça, on a quand même des bons véhicules. Est-ce que c'est quand même pas cette communication là qui va finir par s'imposer ?
Non, il faut d'abord reconnaître l'erreur. Il faut reconnaître l'erreur, il faut dire là il y a quelque chose, et reconnaître aussi qu'on peut être désappointé par l'erreur, c'est-à-dire que on ne sait pas d'où ça vient. Il est possible que personne aujourd'hui ne sache d'où ça vient, et dire on va la traiter, et cette erreur on va la traiter, et on va la traiter, je dis, en donnant la parole à ceux qui sont les plus proches de la réalité. Je me suis aperçu d'une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que les gens qui sont proches de la réalité souffrent du fait que cette réalité est niée. Bon. Et si on se rapproche des gens qui souffrent, c'est presque une méthode de travail, on va découvrir des réalités qui sont cachées. Donc si j'avais un conseil à donner aux dirigeants de Volkswagen, c'est se rapprocher des gens qui ne parlent pas, des gens qui souffrent au travail, et leur donner la parole, trouver des moyens de leur redonner la parole.
Bon, pour cette mission de conseil, on a fait un appel d'offres pour être dans la légalité, et François Dupuis est aussi sur les rangs.
Travailler pour une entreprise et lui dire de renoncer aux mensonges, moi, ça me paraît aussi terroriste que de vouloir la transparence. Donc,
alors, expliquez-nous pourquoi.
C'est une notion terroriste, la transparence. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ça soit dans le couple ou dans une entreprise, on va tout dire à tout le monde. C'est quelque chose d'impossible. Nous avons besoin de quelque chose de privé. En plus, chacun, là je voudrais le dire à Monsieur Loca, c'est le sociologue qui parle, la réalité n'existe pas. Il n'existe que des perceptions de la réalité. Donc, quand vous allez interviewer, moi, je passe ma vie à faire ça, d'ailleurs. Des gens, ce que vous appelez de terrain. En France, on a une rhétorique du terrain absolument extraordinaire. Bon, ils vous donnent leur perception de la réalité, qui est très utile. Mais la perception de la réalité de l'encadrement, c'est pareil, c'est très utile. Donc, d'un certain point de vue, moi, je ne dirais jamais quelque chose comme en renonçant au mensonge. Je voudrais souligner, si vous me donnez 10 secondes...
Je vais vous laisser les 10 secondes supplémentaires. Oui. Mais est-ce que vous diriez, donc, à contrario, acceptons une part de mensonge, parce qu'une part de mensonge est nécessaire dans le fonctionnement d'une entreprise.
Elle est nécessaire dans tout groupe humain. Donc, voilà, et qu'elle soit nécessaire ou pas nécessaire, elle existe. Donc, puisque M. Loca veut se calquer sur la réalité, admettez que le mensonge est une partie constitutive de tout groupe humain. Ça, c'est accepter la réalité. Alors, moi, je voudrais me tourner, et si vous me permettez, poser une question à Stéphane Fougère, parce que, qui est très intéressant.
On n'est pas d'accord,
je comprends bien qu'on n'est pas d'accord. Je pense pas que ça ait grande importance. Mais ce que je veux dire, je voudrais poser une question à Stéphane Fougère. voyez, moi, il y a une chose qui me frappe. C'est que quand vous regardez la télé, par exemple, il ne se passe pas de jour ou de semaine, on va dire pour être modeste, où l'on ne dénonce un mensonge. C'est-à-dire, c'est sur l'alimentaire, les producteurs de ceci, regardez comment ils font le jambon, les producteurs d'autres choses, regardez qu'ils mettent pas du beurre, ils mettent de l'huile de palme, des machins comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où regardez les vaccins, le doute qu'on introduit sur les vaccins, par exemple, ma foi, qu'est-ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas mis dedans, etc. Alors, je voudrais vous poser la question, vous qui avez étudié ça plus que moi, puisque moi, c'est pas mon angle d'attente. Est-ce qu'on n'est pas dans le risque de, à force de crier au loup, plus personne va le croire? Parce que si j'écoute tout ce que j'entends sur ce qui n'est pas bien, je mange plus, je bois, je fais plus rien, si vous comprenez ce que je veux dire, puisque on m'a menti sur à peu près tout. Et le fait qu'il n'y ait pas de tri dans ces dénonciations, constitue, à mon avis, un problème. C'est à la fois la responsabilité et la liberté journalistique de le dire. Vous êtes fait pour ça, vous, les journalistes, pour le dire, et bravo. Mais en même temps, est-ce que, si on prend un peu de recul et à l'échelle de la société, à tout dénoncer, est-ce qu'on ne finit pas par plus rien dénoncer ?
Stéphane Foucard.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut renoncer à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer parce que ça conduit à diminuer la force de la dénonciation? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas de réponse. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut évidemment faire très attention à ce qu'on relaie. Hein. L'exemple récent de la baisse de la couverture vaccinale en France est bien évidemment terrible parce que les bénéfices sont très largement supérieurs aux risques, même si les risques existent. Alors, est-ce qu'il faut dénoncer le mensonge de laboratoires pharmaceutiques qui sous-estiment les risques de leur vaccin, quitte à ce qu'ensuite les gens ne se vaccinent plus et encourent des risques bien plus grands à tomber malade, bien évidemment, c'est une question de responsabilité des journalistes. Bon, cependant, je pense qu'on ne peut pas faire non plus l'économie de dénoncer un certain nombre de choses. À mon avis, les choses qui sont les plus condamnables ne sont pas, encore une fois, perçues par la société comme étant des mensonges d'entreprise. Si on prend par exemple l'exemple de l'emprise réglementaire, la capture de la réglementation par les entreprises, on se rend compte qu'en réalité, les entreprises ont aujourd'hui le pouvoir de créer, par exemple, des outils d'expertise qui leur permettent de mettre sur le marché des produits sans mentir. C'est-à-dire, les produits passent effectivement les tests réglementaires ad hoc, sont mis sur le marché, et puis quand les problèmes surviennent, eh bien, il faut remonter la piste pour se rendre compte que les tests réglementaires, eh bien, ils ont été conçus en partie avec le concours d'experts de l'industrie. Donc il y a aussi, à mon avis, le système génère, l'interaction entre les pouvoirs publics, les évaluateurs du risque, les responsables politiques et les entreprises, génère une certaine quantité de mensonges qui finit par discréditer l'ensemble du système. C'est-à-dire que ça génère une défiance considérable. À mon avis, c'est pas le fait de dénoncer ou pas ces chose-là qui va introduire cette défiance. C'est le système lui-même qui l'a créé.
Vous, d'ailleurs, sur la question de la responsabilité des journalistes, vous l'évoquez à la fin de votre ouvrage, Stéphane Foucard, en disant que un des problèmes peut-être des journalistes, c'est pas leur manque d'enquête sur un certain nombre de sujets, mais c'est plutôt presque une forme de volonté d'être totalement, absolument objectif et équilibré qui fait qu'on finit par donner autant de place. Alors, par exemple, sur la question du réchauffement climatique, ça a été le cas il y a quelques années, entre ceux qui...
C'est toujours le cas. Hein.
Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais dit.
On les entend beaucoup moins, cela dit. Voilà, les climato-sceptiques, aujourd'hui, ont quand même disparu, a priori, de la scène médiatique. Mais sur ces outils, finalement, qui finissent par transformer les comportements et par en faire des comportements déviants, vous parlez beaucoup, Luc Loken, de ce que sont les tableaux de bord avec des données objectives. C'est-à-dire, on croit en les chiffres. Les chiffres, dit-on, ne peuvent pas mentir. Or, c'est peut-être là que se crée le plus de mensonges.
Oui, là, on est dans un mensonge structurel, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut prendre le mensonge structurel est assez difficile à expliquer, mais je vais prendre un exemple tout simple. C'est si je vous demande, Hervé Gardette, de me décrire en deux mots ce que vous avez fait ce matin, vous voyez, je crée une structure de mensonge parce que en deux mots, vous ne pouvez pas, ou en deux minutes, si vous voulez, me décrire ce que vous avez fait ce matin. Donc, vous allez
simplifier.
Vous allez prendre certains points et je ne saurais pas en fait ce que vous avez fait ce matin. Vous voyez, et c'est la même chose pour les tableaux de bord. C'est-à-dire que je demande à ce qu'on fasse rentrer des données de réalité, même si Monsieur Dupuis n'aime pas ce mot. Voilà. Donc, on demande de décrire une réalité avec un outil chiffré qui n'est pas adapté. Voilà. Donc les tableaux de bord ne sont pas manipulés pour, mais de fait, sont des médias qui vont donner une fausse image de la réalité. Alors j'en prends un exemple très simple, des tableaux de bord de gestion. J'avais un client qui travaillait avec des tableaux de bord de gestion, beaucoup d'entreprises comme ça, et sur la base des ratios de ces tableaux de bord de gestion, il fallait procéder à une réduction d'effectifs. Bon. Dans la méthode utilisée, qui consiste à redonner la parole aux gens, je dirais à tout le monde, et surtout à ceux qui s'expriment pas, on s'est aperçu que on pouvait augmenter dans cette entreprise les temps de production, c'est-à-dire faire tourner les machines plus longtemps, et de ce fait-là générer un chiffre d'affaires plus important. Et en faisant cela, le plan social qui était programmé n'a pas été nécessaire. Vous voyez, donc, en regardant les tableaux de bord, il fallait faire un plan social. En regardant la réalité, je m'excuse encore, monsieur Dupuy, en regardant la réalité, il n'y avait pas besoin de plan social parce que cette réalité, qui n'était pas prise en compte dans les tableaux de bord, c'était le fait qu'on pouvait augmenter les plages de production des machines.
François Dupuy.
Oui, encore une fois, c'est un problème de divergence avec une appréhension sociologique non normative. D'abord, moi, je n'aime pas le mot mensonge parce qu'il véhicule un jugement moral sur ce qui est dit. Mais alors, pour reprendre l'exemple que vous avez pris, si moi, je vous demande qu'est-ce que vous avez fait ce matin et de me le dire, ce que d'ailleurs il m'arrive régulièrement de faire dans des interviews, de commencer en disant aux gens, est-ce que vous pouvez me décrire une journée de travail ? Ils vont pas passer la journée à me décrire la journée de travail. Donc, je leur donne la possibilité de sélectionner ce qu'ils considèrent comme important à me dire sur leur journée de travail, comme vous sur votre matinée, et c'est à partir de ce qu'ils me diront que je comprendrai cette réalité que peut-être eux me formulent de façon anecdotique. Ah ben, ce matin, j'ai fait ceci, j'ai cassé mon stylo, j'étais pas content, etc. À partir de quoi, moi, je reconstituerai la réalité. Et partir de cette idée que tous les acteurs ont conscience de la réalité telle qu'elle est, c'est faire peser sur eux une pression inimaginable. Et donc, moi, je leur demande pas ça. Et je dis, moi, j'ai un travail à faire. À partir de ce que vous dites, je vais essayer de comprendre la réalité. Et après, je vais vous la restituer. Et là, si vous me dites, vous êtes trompé, vous n'avez pas compris, alors là, je penserai que vous vous êtes trompé. Mais vous voyez la différence d'approche qu'il y a entre nous deux, monsieur. Voilà. Donc, moi, j'admettrai très bien de lui demander en deux minutes ce qu'il a fait ce matin.
Bah écoutez, on va peut-être vous embaucher tous les deux finalement pour conseiller Volkswagen. Un dernier mot quand même, François Dupuy, il y avait un élément que je trouvais très intéressant dans votre livre où vous dites, en gros, ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises, c'est la culture générale. Et avec davantage de culture générale, on éviterait peut-être un certain nombre de dérives. Je voudrais juste qu'en quelques mots, vous nous expliquiez votre point de vue sur le sujet.
Alors, en seulement quelques mots, vous me demandez de résumer 260 pages.
Exactement.
Vous voyez, voilà. Le dilemme
devant lequel
je suis,
monsieur. C'est comme ça qu'on donne envie d'acheter les livres après.
Bien sûr, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui manque totalement dans les entreprises, c'est la culture générale et ce que j'appelle la culture particulière. La culture générale, je vais en prendre un exemple. Je suis frappé dans mes séminaires, quand on se met à parler de management, de voir que les gens qui sont en face de moi, qui viennent du monde entier, etc., ont le sentiment qu'ils sont à l'âge zéro du management, comme si rien n'avait existé. Donc, ils vont vous émettre, pour un exemple concret, des process en quantité, de la même façon que Taylor disait que tout devait être régi par les règles, et le résultat est le même, ce qui fait que plus il y a de process et moins ils peuvent être appliqués, de la même façon que du temps de Taylor, plus il y avait de règles et moins elles pouvaient être appliquées. Il n'y a pas cette culture qui fait que l'on a progressé dans la connaissance et que le management peut être assimilé à une forme de science parce que petit à petit il s'est élaboré. Ça n'existe pas, on est toujours au même point zéro, ce qui fait que finalement, le management a très peu bougé depuis 100 ans. temps.
Voilà, et pour en savoir davantage, il faut lire La faillite de la pensée managériale, donc de François Dupuis, publié au Seuil cette année. La fabrique du mensonge, c'est votre livre, Stéphane Poucard. Le mensonge dans l'entreprise, Luc Loken. Les références sont sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Trois livres excellents, je vous prie de me croire, hein. Je ne mens pas ce soir. Allez, demain on se retrouve à 18h20 pour poser la question suivante. Le peuple a-t-il besoin de la gauche? Émission qui sera préparée comme celle de ce soir par toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, Nafsika Papanikolaou. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Frédéric.